Alors cette semaine, on a vécu un épisode qui va rester dans les manuels de finances, un de ceux qu'on écrira peut-être dans 20 ans pour expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants, pourquoi on a tous fini beaucoup plus riches, ruinés, ou qu'on se sentira complètement idiot en racontant l'anecdote. On ne sait pas encore, mais une chose est sûre, c'est que Elon Musk est riche, très 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 riche. Il est même tout seul sur sa planète. Plus de 1 000 milliards de fortune personnelle après la plus grosse IPO de l'histoire de l'humanité. Mais la semaine dernière, on a aussi eu une inflation américaine qui explosait, que ce soit du côté consommateur ou du côté producteur. Mais tout le monde s'en fout comme de l'an 40 parce qu'il y avait l'IPO de SpaceX. Et aussi parce que Trump, l'idiot qui sert de président aux Américains, nous a encore promis la paix, l'ouverture du détroit d'Ormuz et le pétrole qui va perdre au moins 30 dollars par baril. Mais on a aussi eu une BCE qui nous montait ses taux, pendant que nous, on se prépare à se farcir leur G7 de merde. Oui, pardonnez-moi, il n'y a pas d'autre terme pour qualifier un truc qui ne sert à rien, qui ne débouchera sur rien, et qui est surtout là pour affûter l'ego démesuré de Macron et de tous les flics et les douaniers de la région qui se prennent subitement pour des agents du Secret Service. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 13 juin 2026. On a du pain sur la planche, alors on y va tout de suite.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On va donc commencer par l'événement qui a tout déclenché, parce que sans lui, rien n'aurait la même saveur. Bon, je vous l'avoue, je pipote un peu. Je pipote parce que l'événement en question, à savoir l'accord de paix que Trump nous a annoncé, ça fait 223 fois qu'il nous fait le coup. Mais ce qui est fou, c'est que ça marche à chaque fois. Donc, le clown de la Maison-Blanche, Donald Trump, a posté sur Truth Social, encore une fois, qu'il a annulé ses frappes qui devaient faire très très mal à l'Iran. Le gars nous a de nouveau fait un backpedaling dont il a le secret, et un nouvel accord est annoncé tout soudain, presque maintenant, là, tout de suite, bientôt. Un accord qui serait approuvé par toutes les parties. Il ne resterait que des détails à régler. La signature pourrait même arriver ce week-end à Genève, et paf, c'est encore pour nous, et le détroit d'Ormuz va rouvrir, et le pétrole va baisser, et l'inflation va revenir sous les 2%, et les taux, bien sûr, ils vont baisser, blablabla, on connaît l'histoire. Alors là, petite pause, temps mort, si vous avez l'impression d'avoir déjà lu cette phrase quelque part, c'est normal, c'est à la louche la 30e fois qu'on nous annonce un accord imminent depuis le début de cette guerre. Mais là, cette fois, on est sûr, c'est le bon. Enfin, normalement. Hier, il y a même un responsable de l'administration Trump qui a confié, sous couvert de l'anonymat, comme toujours, hein, quand c'est du sérieux, qu'un accord avec l'Iran pourrait être signé dans les prochains jours. Le deal en question, un Memorandum of Understanding, prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz et le démantèlement du programme nucléaire iranien. En échange, l'Iran récupérerait des allègements de sanctions et le dégel de ses avoirs. Mais attention, seulement si elle délivre réellement.
Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous. Hein. S'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être signé prochainement entre les deux pays.
Et là alors, le détail qui vaut tout l'or du monde, ce même responsable a chiffré lui-même la probabilité de la signature. Au début, il a dit 75%, maintenant c'est plutôt 80-85%, mais en tout cas, pas 100% parce que le système iranien est très compliqué et a traversé des fractures internes. C'est pas moi qui le dis, c'est le mec de la Maison Blanche. Autrement dit, on a un pourcentage de confiance officielle donné à la louche par un type qui veut même pas être cité. Et pendant ce temps-là, le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, médiateur dans ce dossier, affirme qu'un texte final a été trouvé et que la paix n'a jamais été aussi proche. Le ministre des Affaires étrangères iranien dit la même chose de son côté. Trump, lui, a annoncé jeudi dans le bureau Oval qu'on avait conclu un grand règlement de la guerre sous réserve de la finalisation des documents. La formule magique qui permet de dire qu'on a un accord sans vraiment en avoir un. Sauf que l'agence iranienne MER a publié de son côté 14 prétendues clauses du texte, levée des sanctions pétrolières, fin du blocus naval américain, déblocage des fonds iraniens, et tous les officiels concernés ont démenti ces fuites.
Trump est même allé jusqu'à écrire furieux que ce qui circule publiquement n'a rien à voir avec ce qui était convenu par écrit. Cerise sur le gâteau côté terrain, le ministre israélien de la Défense a déclaré que Tsahal ne se retirerait pas du Liban, de la Syrie, de Gaza, ni du nord de la Cisjordanie. Washington répond que ça ne pose pas de problème parce que personne ne renoncera à son droit à l'autodéfense, ce qui, traduit en langage normal, veut dire que tout le monde signe un accord de paix tout en continuant quand même de se foutre sur la gueule comme avant. Bref, un pourcentage de confiance donné au pif par un anonyme, trois pays qui disent c'est fait sans rien signer, des fuites démenties par tout le monde, et l'armée israélienne qui annonce qu'elle ne bouge pas le jour même où on célèbre la paix la plus proche de l'histoire. Et puis alors, accessoirement, ce qui est génial, c'est que ces tarés d'ayatollah qui sont au pouvoir en Iran vont le rester au pouvoir, et qu'on se retrouve à la case départ, là où on était le 27 février. Alors peut-être il y aura moins de risques nucléaires, mais tout le monde est content. La répression pourra continuer en Iran, et les femmes continueront de se faire piétiner par ces malades mentaux. On prend donc les paris pour dire qu'on va remettre tout ça sur le métier dans 6 mois. Mais bon, ce qui est bien, c'est que les marchés ont pu terminer au plus haut de la semaine et le pétrole au plus bas, ce qui a donc permis de diminuer drastiquement l'impact des chiffres de l'inflation qui sont sortis cette semaine. Puisque oui, l'inflation est forte, mais avec le baril qui va descendre à 50$, tout le monde s'en fout. Reste donc plus qu'à que le détroit réouvre et que les stocks se remplissent et que tout redevienne comme avant dès lundi matin si possible. Donc oui, le CPI est sorti à 4,2%, le PPI à 6,5%, mais comme le baril est à 84$, tout va bien. Si ça se trouve, Warsh n'aura même pas besoin de monter les taux puisque tout va tellement bien et les taux se sont détendus presque de 10 points de base sur la courbe durant la semaine. Une phrase, un post Truth Social, une promesse à 2 balles, la 223e du trimestre et toute la planète finance fait un backflip synchronisé. Et maintenant, le morceau d'histoire de la semaine, SpaceX est entré en bourse. Pas une IPO comme les autres, la plus grosse introduction en bourse de toute l'histoire du capitalisme. 75 milliards de dollars qui ont été levés. Tout a été dit sur le sujet. J'ai même été invité en Belgique jeudi soir pour en parler et dans Forum hier soir à la radio. C'est le sujet du moment. Une valorisation de 1770 milliards de dollars au prix d'introduction de 135$ et une demande tellement délirante que les particuliers à eux seuls ont déposé pour 70 milliards de dollars d'ordre d'achat, soit 2,4 fois le montant total de la précédente plus grosse IPO de l'histoire, Saudi Aramco. Posons donc juste les chiffres sans anesthésie parce qu'ils racontent quand même une histoire nettement plus brutale que n'importe quelle opinion. 18,7 milliards de chiffre d'affaires, 1770 milliards de valorisation. Vous faites le calcul, c'est 95 fois les ventes. Pour comparer, Apple se paye environ 8 fois ses ventes, Microsoft 13 fois, Nvidia entre 20 et 30 fois selon l'humeur du marché. SpaceX n'est pas dans une autre catégorie, elle est dans une autre galaxie, ce qui pour une boîte de fusée est au moins cohérent avec son business plan. Et le plus savoureux, c'est l'écart entre les justes valeurs des experts. Il y a les prudents qui disent 780 milliards, il y a les ayatollahs de la valorisation qui disent c'est 1200 milliards, il y a Goldman Sachs et Morgan Stanley qui ont géré l'émission et qui ont fixé le prix à 135$ l'action, qui disait 1700 milliards, et à la clôture d'hier soir, à 160$ et des brouettes, eh ben on disait plus de 2000 milliards de capitalisation boursière. Quand les meilleurs spécialistes de la planète divergent du simple au triple sur la valeur d'une entreprise, on n'est plus en train de valoriser une boîte d'un point de vue financier, on est en train de valoriser une religion. Le camp des croyants met Starlink en avant. Plus de 10 millions d'abonnés, des marges EBITDA supérieures à 60%, des marges de logiciels sur un business d'infrastructure spatiale et des enthousiastes qui disent 300 millions d'abonnés Starlink en 2036. Bon, ce qu'ils disent pas, c'est que le prix arrête pas de baisser. Et puis il y a aussi l'IA. SpaceX a avalé XAI en février et vient de signer avec Anthropic et Alphabet un contrat de location de capacité de calcul d'environ 26 milliards par année. Et Musk veut multiplier cette capacité par 100. Faites le calcul. 2600 milliards de revenus potentiels de location de compute. Et puis il y a Starship. Si la fusée totalement réutilisable tient ses promesses, le coût du kilo en orbite passe de plusieurs milliers de dollars à quelques centaines. Et SpaceX ne domine plus le marché du lancement spatial. Elle est le marché du lancement spatial. Il faut aussi parler, bien sûr, du traumatisme générationnel, du FOMO, le Fear of Missing Out. Depuis 15 ans, tous ceux qui ont dit trop cher sur Amazon, Netflix, Tesla, Nvidia se sont fait littéralement broyer par le système. Donc, le marché s'est construit une religion en une phrase. J'ai raté Tesla, je ne raterai pas SpaceX. Et cette phrase-là, c'est la plus dangereuse de toute la finance parce qu'elle vaut aujourd'hui plusieurs centaines de milliards de primes psychologiques intégrées dans le prix. Maintenant, retournons le télescope, parce que les baissiers, eux aussi, ont une évidence que tout le monde fait semblant de ne pas voir. SpaceX perd de l'argent, 4,9 milliards de pertes en 2025. Elle n'a jamais été profitable et elle entre en bourse à 1770 milliards. C'est la première fois dans l'histoire du capitalisme qu'une entreprise déficitaire débarque directement dans le top 10 mondial des capitalisations boursières. Apple a mis 42 ans pour atteindre 1000 milliards. SpaceX a fait le double en une séance et en perdant de l'argent. Et pour vendre ça aux institutionnels, Morgan Stanley a présenté un scénario où SpaceX atteint 3400 milliards de revenus en 2040, avec un EBITDA ajusté de 2700 milliards. 3400 milliards de revenus, c'est 5 fois le chiffre d'affaires actuel de Walmart. Et au passage, Goldman Sachs et Morgan Stanley, les deux têtes d'affiche du syndicat des 21 banques sur cette IPO, ne sont même pas d'accord entre eux pour 2030. 470 milliards de revenus pour l'un et 330 milliards de revenus pour l'autre. 140 milliards d'écart. Une bricole. Et puisqu'on parle de prix, parlons gouvernance aussi. Le sujet qui fait bâiller tout le monde jusqu'au jour où c'est le seul sujet qui compte. Yumi Narita, qui est la directrice de la gouvernance de la ville de New York, qualifie la gouvernance de SpaceX de « unprecedentedly bad », d'une nullité sans précédent. Concrètement, Musk garde 82% des droits de vote, vous apportez les capitaux, et lui, il garde les clés. Et si demain, il a envie de mettre 300 milliards dans une colonie martienne au lieu de verser un dividende, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, vous taire. Et Musk, aussi génial soit-il, reste un homme avec un compte X actif à 3h du matin, 6 autres entreprises à gérer, et une espérance de vie de mammifère. Le marché valorise SpaceX comme si Musk était immortel et monomaniaque. L'histoire suggère quand même que ni l'un ni l'autre n'est garanti. Et puis il y a le tour de magie le plus dérangeant de toute l'histoire, l'indexation forcée. Le Nasdaq a changé ses règles en mars pour fast-tracker SpaceX dans le Nasdaq 100 en 15 jours de cotation au lieu de plusieurs mois. Résultat, plus de 200 produits représentant 800 milliards de dollars vont être obligés d'acheter SpaceX d'ici fin juin. BlackRock, Vanguard, votre caisse de pension, le troisième pilier de votre belle-mère. Pas parce qu'ils trouvent ça attractif, mais parce que le règlement l'exige. On a construit un système où la demande est devenue légalement obligatoire. Même les plus belles dictatures de l'histoire n'auraient pas osé. Ou alors, ils l'auraient fait discrètement. Là, on le fait en direct sur CNBC. Petit détail savoureux, S&P, Dow Jones, lui, a refusé de modifier ses règles pour le S&P 500 parce que SpaceX ne respecte pas les critères de profitabilité. La plus grosse IPO de l'histoire ne se qualifie même pas pour l'indice de référence américain selon des règles normales. Ça devrait faire réfléchir. Mais en fait, non, ça fera réfléchir personne. Et pour ceux qui trouvaient que tout ça manquait un peu de folie, dès lundi, il y a des ETF à levier, deux fois longs et deux fois short sur SpaceX, qui vont débarquer sur le marché. Sur une action cotée depuis 72 heures, sans historique, sans bénéfice, à 95 fois les ventes. Le casino est ouvert et la peinture n'est même pas encore sèche sur les murs. Bref, vendredi soir, le titre clôture à 160,95$, soit 19% de hausse par rapport au prix d'introduction. Il a même touché les plus 30% durant la séance. SpaceX vaut désormais plus de 2000 milliards de dollars. Directement dans le top 8 mondial. Et la fortune d'Elon Musk franchit la barre symbolique des 1000 milliards. Premier trillionnaire de l'humanité. Musk a dit qu'il voulait amener SpaceX sur la Lune, sur Mars et à terme encore plus loin. En gros, Musk, c'est Buzz l'éclair.
Vers l'infini et au-delà !
Pendant ce temps-là, les actions du secteur spatial concurrent, Rocket Lab, Intuitive Machines, Planet Lab, ont tous plongé de 9 à 13% hier, parce que dans ce marché, il y a de la place que pour un seul narratif à la fois, et cette semaine, c'était SpaceX. Maintenant, on va parler de la chose qu'on a tous collectivement décidé d'ignorer cette semaine. Mercredi, le CPI américain de mai est sorti à 4,2% sur une année, le plus haut niveau depuis 2023. L'énergie représente plus de 60% de la hausse mensuelle, avec des prix de l'énergie en hausse de 3,9%. Le core CPI, lui, est à 2,9% dans la fourchette basse des attentes, heureusement, ce qui a permis au marché de souffler un ouf de soulagement temporaire. Mais le lendemain, jeudi, le PPI, l'inflation des prix à la production, celle que les entreprises absorbent avant qu'elle n'arrive chez vous, est sortie à 6,5% sur une année. Le plus haut niveau depuis plus de 3 ans. Le core PPI, hors alimentation et énergie, est à 4,9%. Et le plus inquiétant, si le CPI consommateur reste relativement calme, c'est parce que les producteurs absorbent encore une bonne partie de cette inflation dans leurs marges. La question, c'est combien de temps ils peuvent continuer à le faire, surtout si le détroit d'Hormuz reste fermé encore un mois, ou trois, ou six. Mais bon, on s'en fout, parce qu'on sait tous que la paix sera signée demain à Genève, ou pas. Bon, abstraction faite de la paix, en clair, l'inflation américaine est en train de remonter par les deux bouts, consommateurs et producteurs, et les salaires réels reculent de 0,1%. Les ménages se font éclater le pouvoir d'achat, et la réaction du marché à tout ça, quasiment nulle. Pourquoi ? Bah parce que le même jour, Trump a annoncé son taco sur l'Iran, et que tout le monde a préféré regarder la fusée plutôt que la facture du supermarché. Pendant que SpaceX décollait et que l'inflation explosait dans l'indifférent général, la BCE a, comme prévu, relevé ses taux face à une inflation alimentée par le conflit au Moyen-Orient qui, je vous le rappelle, est bientôt terminé. Et le message de Francfort était limpide. On ne veut surtout pas se faire reprocher d'avoir réagi trop tard encore une fois. Et sans détente des prix du pétrole, une nouvelle hausse en septembre est tout à fait probable. Chose qui est donc dorénavant exclue, puisque la paix sera signée et que le pétrole va s'effondrer. Ou pas. À moins que les Iraniens soient en train de balader Trump pour le faire exploser de rage juste avant les midterms et se retrouver à poil face aux démocrates. Et puis alors, la semaine prochaine, on enchaîne avec un véritable carrousel de banque centrale. La Fed se réunit, et ça sera la première réunion présidée par le nouveau patron Kevin Warsh, celui que Bessent avait surnommé « A new sheriff in town ». La BOJ se réunira aussi, mais sans Weda qui est malade, ce qui pour une institution censée incarner la stabilité n'est jamais vraiment le signal qu'on a envie de recevoir, et la BNS se réunit également, mais soyons honnêtes, personne ne va perdre une seconde de sommeil pour la BNS puisque tout le monde s'en fout. Vous voyez le truc ? On a une inflation américaine à 4,2% côté consommateur et 6,5% côté producteur, une BCE qui vient de monter ses taux et la semaine prochaine on a Fed, BOJ, BNS d'un coup avec le nouveau patron de la Fed et un absent à la BOJ. Normalement ce serait le sujet de la semaine, celui qui ferait trembler les marchés obligataires, sauf que cette semaine, les banques centrales, c'était le générique de fin qu'on zappe pour aller directement au prochain épisode, celui avec la fusée dedans. Alors si on prend de la hauteur, et c'est ça l'exercice du samedi, qu'est-ce qui relie le taco de Trump, SpaceX, l'inflation et les banques centrales, et même le G7 ? Une seule chose, cette semaine, on a vécu la démonstration la plus pure de ce que j'appelle la hiérarchie inversée de l'information. L'inflation explose des deux côtés, c'est pas grave, c'était dans les prix. Les banques centrales préparent une semaine cruciale, c'est pas grave, on en parlera la semaine prochaine. Mais un homme qui devient trillionnaire grâce à une boîte de fusée qui perd 4,9 milliards par année. Ça, c'est le sujet, le narratif unique de cette semaine. C'est exactement la phrase qu'on entend depuis des mois. Oui, mais tu comprends, il y a l'IA, et maintenant, il y a aussi la fusée. Et puis demain, il y aura, oui, mais ils vont aller sur Mars. Et donc, c'est là que je deviens un peu nerveux, parce que j'ai déjà vu ce film, et généralement, il finit toujours un peu la même chose. En 1999, le mot magique, c'était .com. En 2007, c'était ha ha ha, enfin AAA, donc forcément sans risque. Aujourd'hui, c'est IA et son petit frère tout neuf, la fusée. Le problème dans tout ça, c'est que ces narratifs sont pas complètement faux. SpaceX est une entreprise extraordinaire, l'IA va transformer l'économie. Le problème, c'est qu'on paye aujourd'hui cash le prix d'un scénario parfait sur 20 ans. Sans accident, sans concurrence, sans régulateur, sans tweet à 3h du matin, sans détroit fermé et sans pétrole à $150. Techniquement, on a des indices américains qui sont plus hauts de tous les temps, ou presque. Un SOX qui a fait quasiment plus de 90% depuis le 30 mars et qui bouge à coup de 10% chaque jour. Une entreprise déficitaire qui débarque en 6e position mondiale des capitalisations devant Meta et ses 60 milliards de bénéfices annuels. Sur le plan macro, on a une inflation américaine qui remonte des deux côtés, une BCE qui vient de monter les taux et trois banques centrales qui se réunissent la semaine prochaine dans un climat de confusion totale, l'une avec un nouveau patron et l'autre sans son capitaine. Et géopolitiquement, on a un cessez-le-feu qui repose sur un homme qui annule des frappes militaires parce que ça tomberait mal pour le début de la Coupe du Monde de foot et pour son anniversaire. Tout ça mis ensemble, ça ne ressemble pas forcément à un marché hyper confiant dans l'avenir, ça ressemble surtout à un marché qui a trouvé cette semaine une distraction suffisamment énorme, une fusée à 2000 milliards de dollars pour ne pas avoir à regarder en face une facture d'inflation qui commence sérieusement à piquer. Mais historiquement, ce genre d'illusion collective, ça dure jamais éternellement. On passe maintenant aux performances de la semaine. Alors, on ne va pas se prendre la tête trop longtemps là-dessus. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne qu'on a le Philadelphia Semiconductor Index, le SOX, qui est la vedette de la semaine, plus 9,42%. Bon, ça dépend les jours, parce que ça bouge à coup de 8 à 10% par séance, ces temps. De l'autre côté, vous avez le pétrole qui perd 6,25%, évidemment, puisque la paix arrive. L'or qui baisse aussi, parce que les taux sont un peu trop élevés à notre goût, qui perd quand même 2,9%. Le DAX qui termine en baisse, le Nikkei qui termine en baisse malgré une fin de semaine assez spectaculaire, et puis le S&P 500 qui, au milieu de tout ça, est en hausse de 0,65%, donc au plus haut de la semaine quand même. Nasdaq plus 0,7% avec l'IPO de SpaceX, le CAC qui reprend 1,61%, la Suisse qui s'envole avec 2,39% de performance cette semaine, et le Bitcoin qui tente quelque chose comme un espèce de rebond avec 4% de hausse sur la semaine. Le SMI maintenant. Alors, le SMI, vous le voyez à l'intérieur, c'est Givaudan qui prend quasiment 11%. Bon, lui, il était upgradé par plusieurs banques, il ne faut pas chercher plus loin. Richemont en deuxième position parce que le luxe va exploser avec la paix qui arrive, les touristes qui vont repartir dans tous les sens. Et puis, autrement, de l'autre côté, Logitech est un petit peu sous pression, mais ça, c'est dû à sa performance récente. Et puis, l'approche des niveaux qui sont toujours assez difficiles pour Logitech de passer par-dessus. Et autrement, le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. On citera quand même ABB qui est en baisse, malgré des commentaires relativement positifs à droite et à gauche. Et puis, l'UBS qui reprend 3,37% parce que le Conseil fédéral semble vouloir assouplir ses réglementations. Passons maintenant aux charts de la semaine, on va faire ça rapidement. Vous voyez la Suisse qui va hyper bien. La Suisse est en train de développer une tendance haussière quasi parfaite à l'intérieur de son range latéral qu'on a ici. Donc là, on a la tendance qui se dessine là. Vous voyez le range latéral qui passe par ici, par les 14 150, 14 200, et un gros support tout en bas. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on revient là-dessus, eh bien, c'est des bonnes opportunités d'achat. Donc, le SMI, depuis ses plus bas du milieu du mois de mars, eh bien, on a déjà quasiment repris plus de quasiment les 12 200 à 13 700, 1500 points de hausse. Et là, techniquement, on est en train de partir gentiment pour aller chercher les plus hauts historiques au-delà des 14 000 points sur l'indice helvétique. Le S&P 500, vous voyez qu'on a été tapé, mais alors pile poil la moyenne mobile des 50 jours, la ligne bleue ici, hein, vous voyez qu'on est juste revenu, mais exactement, c'est le cas d'école d'analyse technique, on est revenu juste là où il fallait, et puis là on est reparti pour aller chercher les plus hauts là aussi, on clôture au plus haut de la semaine après pas mal d'hésitations. Si on arrive à poutser cette séance pourrie qu'on a eue là à l'époque, eh bien c'est reparti comme en 40 sur le S&P 500. Le Nasdaq qui remonte également, même configuration technique, on n'a pas été chercher tout en bas la moyenne mobile des 50 jours ici, mais c'était, l'idée y était un petit peu, on est revenu chercher les 28 500 et puis on est reparti aussi grâce à ce qui s'est passé sur la tech ces derniers jours et surtout sur l'arrivée de SpaceX, mais attention au rebalancement qu'il va y avoir ces prochains jours sur le Nasdaq, comme on l'a expliqué tout à l'heure avec l'intégration de SpaceX qui va se passer dans les 15 prochains jours et donc il faudra dégager certaines positions pour pouvoir laisser rentrer la boîte à fusées. Je vous le disais tout à l'heure, le semi-conducteur index qui va dans tous les sens. Vous voyez les mouvements qu'on a quand même ces derniers temps, c'est assez impressionnant quand vous regardez l'amplitude des mouvements. Là, on est à moins 10,6. Là, on a été à un moment donné, on était quasiment en baisse de 1000 points. On a tout récupéré dans la séance. La semaine dernière, on a encore eu des journées absolument délirantes. On finit quand même au plus haut de la semaine sur le SOX, c'est pas très très loin. Et des plus hauts de tous les temps, c'est du délire absolu. La France qui va bien parce qu'on parie sur le fait que le tourisme va revenir. Et quand le tourisme va revenir, qui c'est qui bénéficie de tout ça? Eh bien, c'est le luxe, bien sûr. Donc, la France termine une semaine fantastique. Et en plus, il y a le G7 à Evian. Ça va être absolument génial. C'est tellement beau ce que Macron est en train de faire. Le DAX, par contre, lui, c'est un peu plus difficile. On a rebondi sur la moyenne mobile des 200 jours qui est vraiment plate de chez plate. Mais pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à redémarrer sur l'indice allemand. Et c'est pas forcément avec ce qu'ils vont décider au G7 que ça va changer grand-chose de toute manière. L'or qui se fait démonter, qui a cassé la moyenne mobile des 200 jours, ça faisait longtemps que c'était plus arrivé. Alors l'or, la problématique, c'est qu'effectivement, comme les taux sont relativement élevés et qu'on s'attend à des hausses de taux et qu'on a eu une hausse de taux en Europe cette semaine, bien forcément, comme l'or ne rapporte rien, les gens s'y intéressent un petit peu moins. Et puis alors, la victime de la semaine, le pétrole qui se fait démonter parce que accord de paix on his way. Donc on est en train de revenir globalement sur les bas du pétrole de ces derniers mois. Donc il faudra surveiller la zone des 80$ parce que c'est là où on se dirige pour l'instant. Et puis après, il faudra effectivement que ça se confirme. Mais vous voyez qu'il y a quand même une tendance haussière qui est en place depuis un bon moment sur le baril. On aura les 80, puis quand on arrivera sur les 78,45, il faudra voir si on va aller casser pour effectivement aller là où Trump aimerait bien que ça aille, c'est-à-dire ici dans cette région. Ou alors, est-ce qu'on va rebondir parce que la guerre ne sera peut-être pas terminée à ce moment-là. On passe maintenant aux vedettes de la semaine et on commence par Novartis. Novartis qui continue de faire ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire gagner des batailles contre les maladies rares. Le groupe Bâlois vient d'annoncer des résultats très encourageants avec le Delbrax contre la dystrophie musculaire fascio-scapulo-humérale, une maladie génétique qui détruit progressivement les muscles. Les biomarqueurs sont en nette baisse, signe que le médicament touche sa cible et réduit les dégâts musculaires. En parallèle, Rapsido a également frappé fort dans l'urticaire chronique avec deux fois plus de patients soulagés qu'avec un placebo et des résultats rapides dès la deuxième semaine. Aucun problème de sécurité majeur n'a été observé. Résultat, Novartis avance ses pions sur deux fronts, prépare les discussions avec les régulateurs et multiplie les dépôts auprès des autorités sanitaires mondiales. Le titre prenait quand même 3,5% sur la semaine. Voilà le graphique de Novartis. Alors vous voyez qu'on a là aussi bien rebondi sur la moyenne mobile des 200 jours et depuis ça n'arrête plus de monter. Et donc là on a cassé la tendance baissière dans laquelle on était. Le prochain objectif c'est d'aller chercher les 124 francs suisses sur Novartis. Et ensuite, on s'ouvrira la porte pour aller chercher les plus hauts de tous les temps en direction des 131 francs suisses. Puisque l'on parle pharma, restons du côté de Bâle, du côté de chez Roche. Cette semaine, le groupe a décroché plusieurs victoires réglementaires. Il faut quand même le signaler. D'abord, la FDA a approuvé le test du Ventanap 10, le premier outil capable d'identifier les patients atteints d'un cancer de la prostate qui pourraient bénéficier du traitement Truqap. Ensuite, la FDA a accordé un examen prioritaire au Tecentriq dans une forme spécifique du cancer du côlon. Et là, les chiffres sont impressionnants. Combiné à la chimiothérapie, le médicament réduit de 50% le risque de rechute ou de décès. La survie sans maladie à 3 ans grimpe à 86% contre 76% avec la chimie au sol. Et si l'autorisation est accordée en octobre, le Tecentriq pourrait devenir la nouvelle référence mondiale pour cette catégorie de patients. Et comme si ça ne suffisait pas, Roche a également obtenu plusieurs extensions européennes pour ses tests diagnostiques compagnons utilisés avec les traitements de Merck, AstraZeneca et GSK, GlaxoSmithKline. En clair, Roche ne vend plus seulement des médicaments, ils vendent l'écosystème complet, le test qui trouve le patient, le traitement qu'il soigne et le diagnostic qui suit l'évolution de la maladie. Une stratégie qui est moins sexy que l'intelligence artificielle, mais qui est quand même terriblement efficace. Donc ce qui nous mène à un graphique qui là aussi a rebondi majestueusement sur la moyenne mobile des 200 jours ici, comme elle l'avait déjà fait au mois de mars. Et donc on repart gentiment dans cette tendance haussière relativement molle. On aimerait bien voir quand même à un moment donné une petite accélération pour retourner en direction des 350 balles. Ça prendra du temps, mais on ira, et on ira aussi ici certainement, en tout cas aux directions des 380 dans pas si longtemps que ça, de nouveau à mon sens. Autrement, toujours dans les vedettes de la semaine, on notera que Nestlé a viré 300 personnes en France chez Nespresso. Richemont, c'est la star du moment parce que les touristes vont revenir dépenser de l'argent vu que la guerre est finie. Et Givaudan est la star de la semaine absolue parce que tout le monde l'upgrade dans tous les sens, surtout Deutsche Bank. Et puis, l'UBS se détend parce que le Conseil fédéral pourrait revoir ses exigences de fonds propres à la baisse. Pourrait, conditionnel, c'est même pas sûr. On passe maintenant en vrac de la semaine où on a Temenos qui a renforcé son activité dans le domaine de la gestion de fortune et les solutions intégrant l'IA avec le rachat du Zurichois Additive. Kardex a fait un profit warning pour le premier semestre 2026, assorti d'une modération de son ambition en matière de rentabilité pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe Zurichois a quand même reconduit sa feuille de route à plus long terme. Idorsia a contracté un emprunt d'un quart de milliard de dollars pour dégager son horizon financier à brève échéance. Sentiel s'est envolé après avoir signé un accord de distribution d'une durée de plusieurs années aux États-Unis. Adecco a été downgradé par une banque américaine. Givaudan a été upgradé par tout le monde cette semaine, comme je vous l'avais dit. X-Life était fortement recherché. Une des entreprises dans laquelle la société compte une participation, Veraxa Biotech, va entrer au Nasdaq. Et Implenia a annoncé le rachat d'une entreprise allemande de génie civil. Cosmo a annoncé le lancement par son partenaire de distribution indien, Glenmark Pharmaceutical, via sa filiale Neuchâtelois Specialty, de sa crème contre l'acné qui s'appelle Winlevi, autrement dit le Clascoterone, en Europe. Les valeurs liées au tourisme, au luxe, se sont donc enflammées en fin de semaine parce que la paix arrive, Trump est le sauveur, Last Minute était en hausse, mais aussi Avolta, l'aéroport de Zurich, Richemont et Swatch. Et si rien n'est signé demain, eh ben on prendra les bénéfices la semaine prochaine. C'est quand même hallucinant comment un accord non signé peut régler tous les problèmes du monde en 15 minutes. Nous avons donc un homme à 1000 milliards de dollars grâce à une fusée qui perd de l'argent, l'inflation qui explose des deux côtés et personne ne regarde. Et la paix mondiale repose sur un mémorandum que personne n'a signé, dont personne ne connaît vraiment le contenu et que même Trump dément quand on en parle. Il y a un pourcentage de confiance de la paix qui est donné au pif, 80-85%, pour décider si le détroit d'Hormuz rouvrira ou pas, si le baril tombera à 50 ou à 150, remonter à 150, si la Fed de Warsh doit monter les taux ou pas. Et la semaine prochaine, on enchaîne donc avec Fed, BOJ, BNS, avec un nouveau shérif qui n'a jamais tiré un coup, un absent au poste de commande et un G7 à deux pas de chez nous qui va surtout nous apprendre que les ronds-points de Genève, eux, sont définitivement fermés. Donc, si demain le deal est signé, tout le monde aura eu raison, on fêtera la paix en grande pompe et personne ne se souviendra qu'on a ignoré un PPI à 6,5%. Et si demain le deal n'est pas signé, eh ben on prendra nos bénéfices ce soir et on se dira que c'était dans les prix et on remettra ça la semaine prochaine, version 224, en attendant le prochain délire de Trump qui aura fêté ses 80 ans avec une compétition de MMA avant de venir serrer la main du petit président Macron à Évian la semaine prochaine. Dans les deux cas, Musk, lui, sera toujours trillionnaire. Et nous, on sera toujours là, samedi prochain, mais aussi lundi, pour un nouveau Morning Bull Live, et aussi pour le Swiss Code Trading Day de mercredi prochain, enfin, si j'arrive à aller à Lausanne. Allez, bon week-end à tous, et n'oubliez pas, à Genève, cette semaine, le seul accord qui sera vraiment signé, c'est celui qui vous interdit de prendre votre voiture. Bye bye, bon week-end, à lundi.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.